Alors, une petite idée du thème de ce matin? La grâce, super, j'ai bien choisi les chants. En tout cas, bien été dirigé. Alors, on parle souvent de la grâce de Dieu. C'est sur ce mot que je me suis arrêté ce matin pour ce partage, pour cette prédication. Et à savoir que le terme traduit par grâce dans le Nouveau Testament vient du grec charis, qui signifie faveur, bénédiction, bonté. Mais la grâce de Dieu a un sens plus profond, plus fort. C'est cette notion de la faveur divine imméritée. Dans sa grâce, Dieu choisit de nous bénir au lieu de nous maudire comme nous le mériterions pour nos péchés. Sa grâce, c'est de nous donner une bénédiction que nous ne méritons pas. Sa grâce, c'est d'offrir le plus grand trésor à ceux qui méritent le moins. Alors comment cette grâce, elle se manifeste dans nos vies? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ou de redécouvrir en plusieurs points que je vais maintenant aborder. Alors le premier point, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est une expression qui fait partie du vocabulaire chrétien qu'on entend régulièrement. Certains utilisent aussi « si Dieu me prête vie ». Car oui, la vie nous est prêtée et Dieu a mis en nous son souffle de vie. Genèse 2, verset 7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Le mot « homme » vient de l'hébreu « Adam » qui signifie « l'être humain ». Et il est formé de « l'Adama », « l'Adam Adama », littéralement du sol de la terre. Nos corps, notre corps, n'a rien d'extraordinaire dans sa composition chimique, puisqu'il a été formé de la poussière. Ce corps ainsi créé n'aurait été rien qu'une coquille vide si Dieu ne l'avait pas animé par son souffle de vie. Lorsqu'il retire son souffle d'ailleurs, notre corps retourne de là où il a été tiré à la poussière. Comme il est dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et cette explication, en contradiction avec l'évolution, tout ça, elle a du sens à mes yeux parce que elle se vérifie. Un corps mort se décompose et retourne à la terre. En réalité, notre vie, nous la devons à Dieu et notre valeur à son esprit qu'il a insufflé en nous. Nos critères de valeur devraient donc être inspirés, réfléchis à la lumière de cette vérité, puisque notre vraie valeur ne dépend pas de nous, de notre corps, qui est poussière, mais non plus de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu ait choisi de nous accorder son souffle de vie. De cette grâce miraculeuse et imméritée que Dieu nous a faite. Que nous puissions prêter autant de valeur à la vie que Dieu a voulu pour nous. Acte 17, verset 24 à 32 nous dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. » Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Dieu donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Et bien qu'il ne se trouve pas loin de chacun de nous, il a voulu que nous le cherchions et que nous nous efforcions de le trouver en tâtonnant, il est dit. Chercher Dieu et sa présence est une quête que chaque homme et chaque chrétien devrait poursuivre. Aussi, Dieu insuffle sa vie en nous en deux temps et nous recevons la vie par deux fois. La première fois à notre naissance, et même avant notre naissance, j'aimerais dire, puisque comme le dit Jérémie 1,5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Dieu nous donne vie avant même que nous naissions dans son intention. Puis il nous forme dans le sein maternel. La vie est la fusion de deux gamètes, l'un masculin et l'autre féminin, qui se rencontrent pour faire émerger la vie. Et la vie commence à partir de là. J'insisterai un petit peu sur ce fait parce que certains prétendent que tant que la vie n'est qu'au stade de l'embryon, on ne peut pas appeler cela un enfant. Ce n'est pas encore un être vivant à leurs yeux. Et pourtant, à mes yeux, la vie, elle est déjà bien présente puisqu'elle était présente déjà dans l'intention de Dieu avant que ces cellules n'arrivent. Et donc Dieu, après, a formé cette cellule et ainsi formée, elle se divisera pour former un corps. Alors à partir de quand devrait-on considérer la vie comme la vie? Le processus qui donne la vie n'est-il pas vie? Dieu est la vie et c'est lui qui la donne. Job 12 nous dit « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. » Alors j'ai fait une petite comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais si je prends l'exemple d'un œuf de poule. Une poule n'a pas besoin de coque pour pondre des œufs. Et les œufs qu'elle va pondre sont des ovules arrivés à maturité, mais qui seront donc non féconds, la gamète femelle. Tel quel, ce n'est qu'un œuf qui ne donnera jamais de poussins. Mais si le fermier a l'intention d'avoir des poussins, il rassemblera les conditions nécessaires pour que la poule puisse en avoir. Il mettra dans sa basse-cour un coq pour féconder la poule, afin qu'elle ponde des œufs fertiles qui donneront naissance à de futurs poussins. Ne doit-on pas considérer ces œufs fertiles comme étant déjà la promesse d'un futur poussin? Ces œufs sont déjà la vie, puisqu'ils contiennent tout ce qu'il faut pour donner naissance à un poussin. Bien entendu, dans le cas de la poule, il faudra des conditions extérieures comme la couvaison pour que cet embryon se développe et arrive à maturité. Il a la même image dans la graine. La graine, une fois fécondée par la pollinisation, enfin les fleurs, une fois fécondées par la pollinisation, donneront des graines qui possèdent tout le patrimoine génétique nécessaire à former un arbre ou une fleur. La graine est déjà la promesse d'une plante. Ecclésias 8, verset 8 nous dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. » Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Je reviens sur le fait que nous recevons la vie en deux fois. La première fois à notre naissance, lorsque nous recevons le souffle capable de nous faire respirer et de nous faire vivre, avec entre parenthèses ce premier souffle tant attendu à la sortie du bébé, ce premier cri qui indique que le système respiratoire et la fonction cardiaque se sont bien mis en route. Le premier cri correspond à un brusque appel d'air dans les poumons et les alvéoles pulmonaires qui étaient fermées, se déplissent. Ce premier cri, on l'appelle le vagissement. Et puis plus tard dans notre existence, nous recevrons, ou nous avons reçu déjà pour certains, un second souffle, le souffle d'une nouvelle vie. Et nous poussons alors le deuxième cri le plus important de notre vie. Ce cri s'adresse à Dieu quand nous reconnaissons que nous avons besoin de lui, quand nous le reconnaissons comme le seul capable de nous sauver. Éternel, sauve-moi, fais-moi grâce. Après la résurrection de Jésus, il apparaît à ses disciples. Et on lit ce passage dans Jean 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cette nouvelle vie, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, comme Jésus l'explique à Nicodème en Jean 3:3, En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Dieu nous donne la vie, puis laisse à chacun le soin de s'approcher de lui, de le chercher en tâtonnant, comme il était dit. Et le jour où nous le rencontrons, il souffle à nouveau sur nous pour nous envoyer son esprit. Notre cœur, qui était alors fermé, comme le lieu où se trouvaient les disciples, s'ouvre pour recevoir l'Esprit de Dieu. Jésus apporte sa paix en nous et il nous envoie pour annoncer le pardon des péchés. Alors pour faire un parallèle avec la terre, Dieu il nous forme de la terre et il nous sort de la boue de laquelle nous étions empêtrés. Le terme hébreu pour esprit, c'est ruach et ça signifie vent, souffle, air, esprit. Quand nos corps retourneront à la poussière, cet esprit reçu de Dieu, lui, sera donc bien conservé pour la vie éternelle. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir », avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Le souffle de vie est donc une grâce manifeste de Dieu dans notre vie. Et je voudrais vous donner une petite application pour vous. Demain matin, en te réveillant, ouvre les yeux tranquillement. Prends 2 minutes pour réfléchir à ta respiration. Inspire une bonne bouffée d'air et remercie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Le deuxième point que je vais aborder, c'est ses bénédictions. C'est ce qu'il nous donne chaque jour à voir, à entendre, à goûter, à sentir, à toucher, à vivre. La vie est déjà une bénédiction, mais Dieu ne s'est pas arrêté là puisqu'il nous a donné des sens et l'intelligence pour comprendre et apprécier les choses que l'on vit. On ne réagit pas comme les animaux à partir de stimuli. Non, Dieu nous a créés à son image et notre Dieu est un Dieu de plaisir et de félicité. Il nous a donné des sens pour que nous puissions ressentir les choses et savourer tout ce qu'il nous donne. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation de Jérémie 3, versets 21-23. Alors ce passage, il me revient régulièrement à l'esprit parce que c'est le passage que j'ai reçu le jour de mon baptême, le 13 janvier 2008, un petit marque-page qui m'a été offert il y a 17 ans maintenant. Et donc j'ai en mémoire ce verset que je dois à mon oncle et à ma tante. Et j'ai ce verset en tête, « Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. » Chaque matin, les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent. Elles ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, le soleil se lève sur une nouvelle journée. Nos corps qui étaient endormis se réveillent, se réactivent, nos yeux s'ouvrent et nous nous levons en vie, prêts à démarrer une toute nouvelle journée remplie de bénédictions. S'ouvrent devant nous de nouvelles occasions de lui rendre gloire et de nous réjouir en lui. Il y a parfois un mystère pour moi dans le repos. Mais même le repos est une bénédiction. Dieu prend plaisir en ce repos. La nuit nous permet de reprendre des forces, de passer à autre chose, peut-être sur la dispute de la veille, sur la difficulté vécue, sur l'agacement. Et la nuit, elle laisse derrière nous... La nuit laissée derrière nous permet de se porter vers ce qui est devant nous. La nuit, comme on dit, elle porte conseil. Elle calme nos craintes, apaise nos esprits, elle est réparatrice. Et en fait, je m'étais dit un peu que la nuit, on fait un peu comme un reset, un peu une remise à zéro. Et on est reparti avec une nouvelle force que le Seigneur nous donne pour aborder cette nouvelle journée. Le psaume 90, versets 14 et 17 nous dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse ». Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Alors j'aimerais que vous réfléchissiez aux grâces, aux bontés, aux compassions de Dieu à votre égard. Visualisez-les. Énumérez ces grâces. Commencez par votre vie, votre partenaire, vos enfants, votre foyer, vos biens, vos travaux, votre plaisir, votre santé, votre capacité, peut-être le bon petit déjeuner que vous avez pris ce matin ou le bon repas du midi qui vous attend. Oh que les bénédictions de l'Éternel sont nombreuses. Quel sujet de reconnaissance puis-je lui apporter aujourd'hui ? Quand j'énumère des choses comme ça, je me dis toujours qu'il y a peut-être cette petite voix qui vient vous dire en vous « Oui, mais il n'y a pas eu que des grâces dans ma vie. » Eh bien, j'ai envie de te dire « Fais taire cette voix. » Parce que Dieu nous fait passer par toutes sortes d'expériences pour que nous puissions aussi revenir à lui dans un esprit de repentance. Sa correction fortifie notre foi et renouvelle notre relation avec lui, en plus de briser l'emprise du péché sur nous. Quand je râle sur mes enfants, je suis toujours étonné de la facilité avec laquelle ils reviennent vers moi. C'est vite passé. On devrait avoir la même attitude avec notre Dieu. Sache que ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin et Dieu a encore de nombreuses bénédictions à t'offrir. J'ai récemment lu le livre « L'étrange éclat des plaisirs de la terre » de Joe Rigney. Ce livre, il nous invite à nourrir notre passion pour Dieu en jouissant de ses dons merveilleux. Le principe est de prendre plaisir en ses dons et en lui dans ses dons. De tout apprécier comme venant de Dieu et d'apprécier Dieu dans ce qu'il nous donne. Les plaisirs de la terre ne sont pas nos ennemis, ils sont là pour nous permettre de comprendre Dieu. Et je me permets de lire un petit extrait où il développe deux approches possibles. Il cite d'abord quatre versets. « Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs », le psaume 84, verset 11. « J'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ », Philippiens 3, verset 8. « Ta bienveillance est meilleure que la vie », psaume 63, verset 4. « Et tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froments et leurs vins nouveaux », psaume 4, verset 8. Que faire donc de ces affirmations ? Quel est leur impact sur notre vie ? Prenons un exemple simple, le crumble aux pommes caramélisées aux noix de pécan. Un délicieux dessert que ma femme me cuisine en automne. La vérité, c'est que Jésus a bien plus de valeur que ce dessert savoureux. Mais que faire de cette vérité ? J'ai deux options. Je peux me dire, j'aime le crumble aux pommes caramélisées, mais Jésus vaut bien plus que cela. Alors peut-être que je ne devrais pas éprouver autant de plaisir à savourer le crumble croustillant, les pommes caramélisées au léger goût de vanille ou les morceaux de noix de pécan qui craquent sous la dent. Je devrais peut-être même ajouter un peu de vinaigre dans la pâte afin d'en rendre le goût moins agréable. Oui, je devrais tout faire pour limiter le plaisir que j'éprouve lorsque je déguste ce dessert afin qu'il ne rivalise pas avec le plaisir que je prends en Dieu. Mais je peux aussi me dire... Ce gâteau est incroyablement bon, mais ce n'est qu'un avant-goût éphémère de la joie totale que Jésus m'offre. À chaque bouchée, je désire me régaler et goûter en même temps combien le Seigneur est bon. Comprenez-vous la différence ? Dans le premier cas, nous cherchons à mettre Jésus en valeur en dépréciant la création. Dans le second, nous admettons que la création est majestueuse tout en nous rappelant que nous ne savons pas encore ce qu'est la véritable majesté. Dans le premier cas, nous essayons de ternir l'attrait du gâteau pour que Jésus brille de mille feux. Dans le second, nous laissons le gâteau être ce qu'il est, avec toute sa saveur et son délicieux croustillant, et nous découvrons alors qu'à la lumière du visage de Jésus, les choses de la terre curieusement s'illuminent. Dans l'un, nous rabaissons la création afin d'élever Jésus. Dans l'autre, nous élevons la création à sa juste valeur et aspirons au plaisir intense qu'elle procure, alors qu'au plus profond de notre cœur, nous confessons qu'aucun œil n'a encore vu, qu'aucune oreille n'a encore entendu, qu'aucun homme n'a encore réalisé ce que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Jésus est toujours meilleur, Les sommets de la gloire de Dieu s'élèvent bien au-delà de nos expériences actuelles. Celles-ci ne sont en réalité que des avant-goûts de ses œuvres glorieuses. C'est bien ce que le psaume 4, verset 7 nous montre. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leur froment et leur vin nouveau. » Comment confesser cela valablement si le froment et le vin ne nous ont jamais apporté de joie? Comment proclamer que sa bienveillance est meilleure que la vie si nous refusons à jouir de la vie? Affirmer que nous ne désirons rien d'autre que lui est une déclaration bien creuse si c'est littéralement vrai. Cela reviendrait à déclarer « Je ne désire rien d'autre que toi car en fait je n'ai jamais rien désiré ». Mais voici ce que le psalmiste veut dire. « J'ai désiré beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de biens terrestres, mais comparé à toi, ils ne sont rien. Tu es ma force, tu es mon tout, Jésus est toujours meilleur. » Fin de la lecture. L'auteur souligne quand même qu'il partage ici les plaisirs légitimes. Et bien sûr, se délecter des joies que procure le péché est toujours inacceptable. Tout désir et plaisir pécheur doit être réprimé, mortifié, mis à mort. En dehors de cela, Dieu nous a donné des sens pour apprécier les choses et Dieu nous a créé des choses qui ne sont pas fades et qui ont du goût et pas ça pour éviter de prendre plaisir dans autre chose qu'en lui. Ce qu'il nous demande, c'est de savoir apprécier, de prendre plaisir en ces choses comme venant de lui, comme un avant-goût des grâces encore plus excellentes qu'il nous attendent, qu'il a en réserve pour nous. Alors simplement, la Bible, elle regorge encore plein de comparaisons qui nous permettent de comprendre des réalités spirituelles. Je vais vous donner un exemple, le miel. Le miel est par exemple comparé à la parole ou à la sagesse de Dieu. Psaume 19, versets 9 à 11. « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Un deuxième aussi dans les proverbes, « Mon fils, mange du miel car il est bon, un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme, si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Toute grâce excellente et tout don parfait nous viennent d'en haut, alors déculpabilisez-vous de prendre plaisir dans les choses que Dieu a créées pour que nous en jouissions. Bien sûr, ces choses ne doivent pas prendre le dessus. Bien sûr, elles ne doivent pas prendre le dessus sur Dieu, mais la Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. On le lit dans 1 Timothée, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Alors j'aime personnellement beaucoup les animaux et j'aime beaucoup en élever. Certains ne comprennent pas toujours l'intérêt que je leur porte, mais ils sont pour moi l'occasion de voir la beauté de Dieu, d'appréhender sa sagesse et son intelligence infinie. Je m'émerveille ainsi devant sa création et touche en quelque sorte du bout des doigts sa magnificence. L'autre soir encore, je promenais mon chien et je me suis assis sur une pierre pour regarder les étoiles dans le ciel dégagé. Et je conscientisais son infinie grandeur, ce qui m'a poussé à le louer pour ce qu'il est. Je me rendais compte de ma petitesse, moi, sur mon caillou, dans l'immensité de cet espace. Et je me disais que Dieu était grand, qu'il était bon et que j'avais de la chance d'avoir été créé. J'étais en train de préparer justement cette prédication et je me disais, quelle chance j'ai que le Seigneur t'ait donné la vie. Et je vais, pour exprimer ça, lire un psaume, le psaume 115. Je vais lire tout le psaume. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il y fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or, elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles ont un nez mais ne sentent pas. Elles ont des mains mais ne touchent pas. des pieds mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous, nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et pour toujours, louez l'Éternel. Alors nous avons cette mission de bénir l'Éternel d'une manière saine, mais de jouir de ses dons et de profiter de ce qu'il nous a mis sur terre aussi, et de nous donner une langue, de nous donner des oreilles, un nez, et donc de vivre ses grâces chaque jour. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est Jésus-Christ, bien sûr. En introduction, je commençais en vous disant que la grâce de Dieu, c'est d'offrir le plus grand trésor à ceux qui méritent le moins. Ce trésor, il nous l'a offert en son Fils Jésus-Christ. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En tant qu'homme, il est parfois difficile de comprendre le plan de Dieu et de saisir l'importance du don de Jésus-Christ à la croix. Nous regardons avec mon épouse la série The Chosen, c'est une série sur la vie de Jésus, et on voit bien que pour les disciples de Jésus et ses contemporains de l'époque, c'était difficile de comprendre que ce roi, ce fils de Dieu, devait mourir. Ils ne pouvaient pas l'entendre. C'était pour eux inconcevable, parce qu'ils s'imaginaient qu'un roi, c'était quelqu'un de glorieux, et il était venu pour libérer du joug de l'envahisseur. Comment Dieu pouvait-il être glorieux en donnant sa vie? Eh bien, Jésus répond lui-même en disant « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus, il a bouleversé nos attentes, il a changé notre regard, et comme la vie a commencé avec le premier Adam formé de la terre, Dieu nous a envoyé le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 58 dit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie, la mort était engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Étant ressuscité, Christ est entré dans une nouvelle forme de vie. Il est la source de la vie spirituelle qui conduira à notre résurrection. Dieu a soufflé son souffle de vie sur le premier homme pour qu'il lui donne la vie. Et en Jésus, nous recevons cet second esprit, le vivifiant, la vie nouvelle qui se poursuivra jusque dans l'éternité. Le corps humain glorifié que Christ possède convient à sa vie dans la gloire, tout comme le corps humain d'Adam convenait à sa vie naturelle. Lorsque nous ressusciterons, Dieu nous donnera un corps transformé et éternel qui conviendra à notre nouvelle vie dans l'éternité. Alors pour conclure, quelle sera notre réponse à cette grâce? Que dois-je faire? Quel est mon rôle vis-à-vis de cette grâce qui m'est faite? Eh bien, la vivre pleinement, la recevoir personnellement. À l'image de ce que je vous ai exposé tout à l'heure, les bénédictions de Dieu sont des vecteurs, des intermédiaires qui nous rendent capables de percevoir Dieu. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu est de transmettre le sens de la vie, de manifester sa gloire et d'encourager nos contemporains à regarder, à tourner les regards vers lui. Le psaume 115 disait « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à toi donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Vivre ses bontés en reconnaissant qu'elles nous viennent de Dieu est une manière de lui rendre gloire et de montrer sa gloire à ceux qui nous entourent. Par mon témoignage, je suis aussi un vecteur, un intermédiaire de la bonté de Dieu, de sa fidélité. Jésus s'est présenté comme la porte, une porte ouverte vers l'Éternel, et nous, il nous invite à être ses témoins. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà notre mission, voilà celle qui vous est confiée, voilà celle que je voulais vous partager ce matin. Eh bien, frères et sœurs, comme l'utilisait Paul dans ses lettres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.